Chers frères et sœurs d'Annecy, amis qui vous nous rejoignez, qui voulez découvrir l'Évangile, je vous propose une lecture dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Ce texte prend du relief dans notre actualité avec ce qui est écrit au verset 13 « Quand j'enverrai la peste ». Je voudrais préciser immédiatement deux choses. Une première remarque. Cette parole est donnée dans un contexte précis. C'est la réponse que Dieu fait à la prière de Salomon pour la dédicace du temple. Ces paroles de Dieu, et notamment les versets 13 et 14, concernent Israël. Elles sont faites dans le cadre de l'Ancienne Alliance. Ancienne Alliance que Dieu est en train de renouveler dans ce passage d'ailleurs. On ne peut pas transposer littéralement, de but en blanc, ce que Dieu dit ici à notre société actuelle, avec qui Dieu n'a pas fait d'alliance spécifique, comme Dieu a fait avec Israël. On ne peut pas aussi la transposer de but en blanc à l'Église, qui est le peuple de la Nouvelle Alliance, mais un peuple sans territoire, sans frontières, sans État, sans juridiction. Néanmoins, on peut dire qu'il y a des principes spirituels contenus dans ces paroles qui sont valables pour tous, pour notre société, pour l'Église de Jésus-Christ, constituée de ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, et pour chacun de nous individuellement. Je me permets ici de préciser qu'il faut toujours faire attention à ne pas appliquer certaines vérités bibliques collectives sur un plan individuel. Certaines vérités sont valables sur le plan collectif, mais elles ne fonctionnent pas sur le plan individuel. Et puis la deuxième remarque, il nous est dit que cette parole fut donnée quand la maison de l'Éternel fut achevée, verset 11. Dieu déclare aussi à deux reprises avoir choisi cette maison où l'on devra lui offrir des sacrifices pour que son nom y réside à jamais. Et Dieu s'y est engagé à avoir là ses yeux et son cœur. Et il y a eu du changement depuis. Il y a eu la venue de Jésus-Christ. Jésus a achevé l'œuvre que le Père lui a confiée en accomplissant le sacrifice parfait, unique, suffisant. Jésus s'est écrié sur la croix « Tout est accompli, tout est achevé ». Désormais, c'est dans le nom de Jésus et dans la personne de Jésus que les yeux et le cœur du Père sont. C'est dans la personne et le nom de Jésus-Christ que l'on pourra vivre les principes contenus dans ces paroles. Je cite 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Je voudrais souligner trois principes contenus dans cette parole donnée par l'Éternel, trois principes toujours d'actualité. Premièrement, il y a une volonté évidente de la part de Dieu de vouloir manifester sa grâce. Dieu le fait clairement comprendre à Salomon. Dieu se présente comme celui qui veut exaucer les prières. Il se présente comme celui qui veut pardonner. Il se présente comme celui qui veut guérir. Dès que les conditions sont remplies, la parole de Dieu nous dépeint un Dieu qui tarde dans l'exercice de ses jugements, mais qui est prompt à exercer sa grâce. C'est toujours sa volonté et son désir. Dans ce passage, Dieu affirme sa volonté d'exaucer nos prières. Dieu se présente comme celui qui nous invite à faire appel à lui, car il exauce les prières. Il entend les cris, les larmes, les supplications, les prières vraies. Jésus est allé plus loin en nous donnant son nom pour demander et être exaucé. Et son nom ne connaît aucune limite. Bien évidemment, la disposition de Dieu à exaucer nos prières ne signifie pas qu'il va exaucer n'importe quelle prière, n'importe quelle demande fantaisiste, inutile, égoïste. Dieu affirme ici sa volonté de pardonner les péchés. La Bible nous parle d'un Dieu qui pardonne tous les péchés, les petits et les gros, si on peut les classer comme cela. Les excusables, entre guillemets, et les impardonnables, entre guillemets. Les identifiés et les oubliés. Les réparables et les non réparables. C'est non seulement sa volonté, mais c'est sa priorité. Christ est venu pour cela. Et la Bible nous enseigne que tous les hommes ont besoin de sa grâce. Il est le seul qui peut effacer les péchés. Et puis, Dieu affirme sa volonté de guérir son pays. Dans le contexte, Dieu affirme son intention d'assainir le pays, de rétablir ce qui trouble le pays, ramener la pluie, faire disparaître les sauterelles et les épidémies. Au sens large, Dieu affirme sa volonté de restauration, de guérison dans le domaine des relations, par rapport au poids du passé. Il veut donner la santé à l'âme. La vie éternelle ne se limite pas au pardon des péchés, mais à une vie d'abondance et de qualité. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Soyez convaincus de l'actualité de ce principe divin. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut manifester sa grâce. Le deuxième principe qui est ici, il y a des conditions pour que Dieu exerce sa grâce. La grâce n'est pas automatique, comme certains le prétendent. Elle n'est pas non plus un dû, et elle a encore moins une récompense méritoire pour œuvre religieuse ou pour bonne conduite morale. Mais la grâce fonctionne quand même avec un levier. Un levier qu'on retrouve dans ces quatre si. Si mon peuple s'humilie, il est question de s'humilier. Notons qu'il est que s'humilier est cité avant de prier. L'ordre a son importance. S'humilier, c'est reconnaître sa faiblesse, sa pauvreté. C'est accepter le diagnostic de Dieu sur nos vies. C'est reconnaître la nécessité de son intervention. Parce que tout seul, je n'y arriverai pas. L'humiliation volontaire permet à Dieu d'agir favorablement dans nos vies, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il est aussi question de prier, si mon peuple prie. Prier dans le sens d'écouter Dieu, de lui exposer ses besoins spirituels, ses défaites, ses manquements, ses failles, ses échecs. Quelle place occupe cette prière dans votre vie? Il est question de chercher la face de Dieu. Chercher Dieu, c'est plus que chercher à être seulement exaucé. Mais chercher sa face, c'est encore différent que de chercher Dieu. La face de Dieu est précisée dans le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ. De Corinthiens chapitre 4, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Il est aussi question de se détourner de ses mauvaises voies. Les mauvaises voies sont celles qui nous amènent loin de Dieu, celles qui nous conduisent dans une éternité séparée de Dieu. Se détourner de ces mauvaises voies nécessite au préalable de les identifier, de les confesser, puis de s'engager avec Dieu dans l'abandon de celles-ci, pardon. Ces quatre « si » décrivent un processus indispensable qui s'appelle la repentance. Tout au long de la Bible, nous voyons que chaque fois qu'un homme s'humilie, s'approche de Dieu, reconnaît son péché, demande grâce à Dieu, Dieu exerce sa grâce. Notre société est concernée par le message de la repentance. Elle a besoin de se remettre en cause, d'appeler péché, ce que la Bible appelle péché. Elle a besoin de réfléchir sur ses voies et d'abandonner ses mauvaises voies. Les hommes doivent se tourner vers celui qui a été percé pour nos péchés. L'Église est aussi concernée par ce message, dans le sens qu'il lui faut revenir à l'essentiel, se détacher du futile, de l'inutile, de l'erreur, du péché qui l'enveloppe si facilement. Chaque individu, de manière différente, à son niveau, est concerné par le message de la repentance. Et puis le troisième principe, il y a des moments favorables pour expérimenter sa grâce. Avant les quatre « si », il y a trois « quand » qui sont mentionnés au verset 13. « Quand » Q-U-A-N-D, bien sûr. « Quand il n'y aura pas de pluie. » La pluie est l'image de la vie que Dieu répand. Quand l'absence de pluie dure, c'est anormal. Je disais dans le message précédent que Dieu fait pleuvoir sur tout le monde, sur les bons comme sur les méchants, mais quand il pleut sur personne. Quand les sauterelles consument le pays, les sauterelles sont associées à l'activité démoniaque qui détruit tout. Quand la peste contamine le peuple de Dieu, la peste est une maladie contagieuse qui se propage facilement comme le péché. Ces trois camps sont comme des signaux, des avertisseurs, comme la sonnerie d'un réveil. Ce qui se passe actuellement doit être pour tous, pour chacun, l'occasion favorable de venir à Jésus-Christ. Considérant ces temps que nous vivons comme des opportunités, des occasions. Un texte biblique dit « racheter le temps ». Il est intéressant de souligner qu'il y a deux mots en grec traduits par « temps ». Le mot « chronos » qui a donné chronologie, chronomètre. C'est le temps qui s'écoule et que l'on peut mesurer en secondes, en minutes, en jours, en années, etc. Et il y a aussi le mot « kéros » qui signifie « moment favorable »,« occasion ». C'est ce mot qui est utilisé dans cette expression « racheter le temps ».« Racheter le temps ». Elle pourrait se traduire ainsi « saisissez les moments favorables ». Les camps mentionnés ici sont à comprendre de cette manière, comme des moments favorables pour revenir à Dieu, pour se tourner vers Dieu dans la repentance et la foi en Jésus-Christ. Si les versets lus s'appliquaient uniquement à Israël, les principes contenus concernent tout le monde. Notre génération a besoin de s'arrêter, de se laisser atteindre par Dieu, de se tourner vers Jésus-Christ. Et nous voulons dire à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, repentez-vous, croyez dans ce que Jésus a fait sur la croix. Il est celui qui peut changer votre cœur, vous faire grâce, pardonner vos péchés, vous sauver. L'Église est aussi concernée par ce principe. Que ces temps de confinement soient des moments favorables pour amener le peuple de Dieu dans sa parole, dans sa présence, dans la prière, dans les choses de l'esprit, dans ce qui est essentiel, et que dans ces moments nous puissions être débarrassés du futile, du matérialisme, du mondain, de ce qui est vanité. Et puis, individuellement, vous avez besoin de vous repentir si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme Sauveur, pour qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Pour nous chrétiens aussi, individuellement, c'est bien de revoir notre échelle de valeur et de remettre Jésus à la première place. Que Dieu vous bénisse.